J'en savais rien, d'accord? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Oui, c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu?
Non, non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu! Tu as perdu! Tu comprends? Tu ne joues plus!
Bonjour à tous et bienvenue sur Aléa, notre chronique sur le jeu et la philosophie. C'est Régis qui vous parle et je suis en présence de Marion.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous aurez le droit à une émission un peu spéciale, puisque vous allez écouter un extrait librement remanié d'une interview de Colas Duflo, qui est maître de conférence en philosophie à l'université de Picardie-Jules Verne et un spécialiste de la question du jeu. Cette interview avait été réalisée en 1998 par Pierre-Olivier Monteil, qui est docteur en philosophie politique pour la revue Autre Temps, notamment à propos de la publication de l'ouvrage de Duflo, Le Jeu, de Pascal A. Schiller. Ici, c'est Marion qui va jouer le rôle de Colas Duflo et moi, celui de Pierre-Olivier Monteil. C'est parti. Quelle est, selon vous, Colas Duflo, la place du jeu en philosophie et comment en êtes-vous venu à vous intéresser au jeu ?
Eh bien, c'est un peu à ces deux questions que j'essaie de répondre dans Le jeu de Pascal A. Schiller. En effet, à l'origine de mes recherches sur le jeu, il y a une volonté plus générale de faire une philosophie qui s'intéresse aux pratiques humaines concrètes. D'autre part, je m'intéressais beaucoup aux différents rapports entre la liberté et la règle. Le jeu m'est assez vite apparu comme un bon objet d'étude sur lequel il y avait encore quelques nouvelles choses à dire. Lorsque j'en ai parlé autour de moi, mes collègues ont trouvé que le thème était original, mais personne n'a semblé s'étonner qu'on puisse considérer le jeu comme un objet philosophique à part entière. Et c'est ce manque d'étonnement qui méritait l'étonnement. Car après tout, on ne voit pas bien en quoi la philosophie, qui poursuit par définition la sagesse, est fondée à s'intéresser à un objet d'apparence aussi futile que le jeu. Et il est clair que la philosophie antique, par exemple, n'a pas considéré qu'il s'agissait d'un objet digne de l'attention du sage.
Il y a donc, selon vous, vous pensez, une histoire de la notion.
Oui, et c'est ce que ce livre a pour objet de comprendre. Comment le jeu est-il devenu un thème digne de l'attention du philosophe? Si l'on compare la situation actuelle, dans laquelle le thème du jeu est devenu un paradigme assez répandu, et où en tout état de cause, personne ne semble douter de l'intérêt qu'il présente pour la pensée, les rares textes de l'Antiquité et du Moyen-Âge, qui lui sont consacrés, on s'aperçoit qu'une véritable mutation dans le concept de jeu s'est produite, qui a fait de cette activité conçue comme mineure et pour les enfants, quelque chose qui appartient aux choses dont la philosophie peut s'occuper. C'est cette mutation-là qu'il faut comprendre en analysant cette histoire.
Quand et comment s'est produite cette révolution, ce changement ?
La thèse que je défends ici est que cette révolution conceptuelle s'est essentiellement produite au XVIIe et XVIIIe siècle. Elle avait déjà commencé discrètement à la fin du XVIe siècle, lorsque les mathématiciens, qui étaient aussi des philosophes, puisque le champ du savoir n'était pas encore divisé, ont commencé à considérer les jeux de hasard comme des objets extrêmement intéressants.
D'après, en fait, ce que vous décrivez, c'est le début de ce qui deviendra une branche extrêmement importante des mathématiques, sous le nom de calcul des probabilités, qui connaît de grandes avancées au XVIIe siècle, entre autres avec l'œuvre de Pascal.
Oui, en fait, les mathématiques étant elles-mêmes à cette période le modèle reconnu par tous, on va dire, pour la scientificité qu'elles représentent, les jeux, parce qu'ils sont des objets d'intérêt pour le mathématicien, vont devenir du même coup dignes de l'intérêt des autres penseurs, de tout autre penseur. On peut dire que cette révolution s'achève avec Schiller, qui dans son ouvrage « Les lettres sur l'éducation esthétique de l'homme » donne au concept de jeu une dimension théorique, qui s'exprime très bien dans la phrase la plus célèbre de cet ouvrage « L'homme ne joue que là où dans la pleine acception de ce terme, il est homme. Il n'est tout à fait homme que là où il joue. »
Ce qui veut dire exactement ?
Ce qui veut dire que l'on ne joue plus par défaut, parce qu'on est un enfant incapable de s'élever à des activités plus consistantes, ou bien parce qu'on est une âme faible incapable de s'élever jusqu'à la théorie, par exemple, qui reste l'activité favorite du savant, mais bien qu'on joue de façon essentiellement liée à notre humanité.
Donc, Si je comprends bien, la façon dont on a considéré le jeu a évolué et s'est transformé autour du XVIIIe siècle. Mais comment est-ce qu'on peut essayer d'en rendre compte? Et est-ce que cela est seulement dû à des penseurs qui ont changé leur façon de voir le jeu?
En fait, il y a plusieurs facteurs qui ont concouru à changer la valeur accordée à la notion de jeu. On peut en compter essentiellement trois. Un changement social, un changement conceptuel et surtout un changement d'anthropologie. Donc il y a d'abord le premier, le changement social. Parce que si le philosophe écrit dans son temps, il écrit aussi à propos de son temps. Et c'est aussi parce que la société du XVIIe siècle est une société du jeu que Pascal peut faire du jeu un modèle pour penser tout le social. Et cela est encore plus vrai au XVIIIe siècle, où diverses sources témoignent non seulement du fait que le jeu est un phénomène de société qu'il faut penser, mais ces sources aussi, par leurs moyens propres, font état d'une pensée du jeu. Ensuite, il y a le deuxième changement, le changement conceptuel, avec l'intérêt des savants pour le jeu. Et pas seulement les jeux de hasard, comme en témoigne Leibniz qui s'interroge au solitaire ou même au jeu de Go, sur la description qu'on en fait dans les témoignages venus de Chine. Tout cela change le sens du jeu. Le jeu n'est plus cette activité pour les enfants, il devient un lieu privilégié où s'exerce et se dévoile l'intelligence humaine sans contrainte, comme le montrent divers textes de Leibniz ou de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui s'émerveillent de l'inventivité ludique, ou encore de la façon dont les joueurs font, au jugé, des estimations de probabilité qui demandent des heures par les moyens des mathématiques. Et enfin, il s'agit d'un changement d'anthropologie, avec Rousseau et surtout avec Kant, et de la manière dont se transforme chez eux la manière dont sont considérés les enfants. En fait, on n'est plus enfant par défaut, comme un passage malheureux avant de devenir adulte. L'enfant est considéré et devient l'humanité à réaliser, et par conséquent, il devient important de s'interroger sur le jeu comme activité de l'enfant. L'activité ludique devient interprétée comme un apprentissage de la liberté par soi-même, un apprentissage aussi de la règle et de son propre corps. Donc toute cette genèse permet de comprendre comment le concept de jeu entre en philosophie, devient un objet d'étude philosophique et du même coup permet de ressaisir de façon consciente les problématiques et les conceptualisations dont nous avons hérité.
Voilà, c'était Marion dans le rôle de Colas Duflo qui reprenait une interview sur son livre « Le jeu » de Pascal à Schiller.
Ah oui, mais j'en savais rien, d'accord? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer? Tu as bonne mine avec ton « On a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Lui, c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu?
Non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages, des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu! Tu comprends? Tu ne joues plus.